Bonjour Toufik, bonjour à tous. Combien de temps un logement social vendu peut-il être compté dans le quota communal de la loi SRU ? Le gouvernement voudrait doubler ce temps dans le cadre du plan du projet de loi Élan. Si la droite le pousse à aller plus loin, la gauche craint qu'on ne touche à un totem. Compte rendu des débats dans l'hémicycle de l'Assemblée dans un instant. Après le vote au Sénat de la réforme ferroviaire, nous entendrons aussi la réponse de la CFDT qui n'est pas prête pour le moment à quitter le mouvement de grève. La sécurité sociale à l'équilibre cette année, ce sera le cas ou presque grâce à une bonne croissance et de lourds efforts, rappellera dans cette édition un économiste de la santé. Et puis nous irons à Alger où le président Bouteflika a été vivement critiqué par une journaliste depuis Bruxelles. Tension diplomatique. À quel point peut-on toucher à la loi SRU, solidarité et renouvellement urbain ? Cette loi qui impose aux communes un quota de logements sociaux, 25%. Elle a été votée il y a 18 ans. Le gouvernement affirme ne pas vouloir y toucher, mais il en est question en ce moment dans le projet de loi Élan sur le logement qui est examiné depuis 7 jours à l'Assemblée nationale. Un article du texte pourrait affaiblir l'ambition de la loi SRU. Vif débat jusque tard hier soir, Claire Chaudière.
Jamais aucun gouvernement. Au cœur de la discorde, cette volonté du gouvernement de permettre aux communes où des logements sociaux seront vendus aux locataires de continuer à les comptabiliser dans leur quota HLM, et cela pendant 10 ans au lieu de 5 actuellement.
C'est donc une première entorse à cette loi SRU.
À gauche, les députés s'insurgent.
Quelque part, ça ouvre la boîte à Pandore.
Socialistes, France Insoumise.
Dans le cas de ces villes qui ne respectent pas la loi SRU, et où on va pouvoir vendre des blocs de HLM, elle permet de tricher.
Et communistes.
C'est la première fois depuis 18 ans qu'un gouvernement va franchir le Rubicon. Et l'abbé Pierre, malheureusement, n'est plus là pour venir vous regarder et vous observer voter.
Tandis qu'à droite et dans les rangs de La République En Marche, des députés non seulement sont favorables à cette mesure, mais voudraient aller plus loin encore dans l'assouplissement.
Oui, monsieur le ministre, il est légitime qu'ici ou là, il y ait des correctifs.
Le moment est vraiment venu de réviser la loi SRU.
Agacé par la levée de bouclier d'une partie de l'hémicycle, le ministre Jacques Mézard, d'ordinaire d'un calme olympien, sort de ses gonds dénonçant une parfaite mauvaise foi.
Ça va, nous sommes tous fatigués, mais je me calme.
Nous faire le procès de bouleverser la loi SRU dans ce texte, ce n'est pas très raisonnable.
Les lois aussi sont faites pour évoluer.
Débat qui se poursuivra cet après-midi à l'Assemblée, où la tension est nettement montée d'un cran hier soir.
Ces débats-là sont a priori terminés, ou presque. La réforme ferroviaire est approuvée par le Sénat. Le texte amendé à la marge pour y inscrire quelques amendements de la CFDT et de l'UNSA. Ce texte passera devant une commission mixte paritaire dans une semaine. Il faudra alors trouver un accord entre Sénat et Assemblée nationale. Le secrétaire général adjoint de la CFDT a redit hier au micro de Frédéric Carbone. Rémi au frère Pivel demande d'ici là
plus de garanties sociales, parce que contrairement à ce que déclare la ministre des Transports, s'il y a effectivement eu quelques avancées, c'est quand même pas Noël avant l'heure. Il faut savoir que l'arrêt de recrutement au statut, ça signifie quasiment dès demain la mort du statut, donc la remise en cause de garanties statutaires pour les cheminots qui existent aujourd'hui. Donc il nous faut un peu plus d'avancées qui pourraient être engageantes lors de la table ronde tripartite.
Mais quoi,
qui
par
se réunira.
Quelque chose de précis, eh bien, qu'il faudrait...
Par exemple, la sécurisation de l'emploi au niveau de la branche ferroviaire. Par exemple, la garantie de droits des agents statutaires transférés à des opérateurs ferroviaires privés. Il y a quand même un système de protection sociale, une caisse de branche que nous revendiquons. Et puis aussi, peut-être revenir sur certaines conditions, sur l'obligation de transfert que nous n'apprécions pas du tout à la CFDT.
Voilà donc pour les demandes de Rémi au frère Privel de la CFDT au micro de Frédéric Carbone. Par ailleurs, un nouvel épisode de grève débute ce soir. Il doit durer 2 jours, grève à la SNCF. Recruter des enseignants au niveau Bac plus 3 et non plus Bac plus 5, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer y réfléchit. Une sorte de pré-recrutement, les étudiants pour suivraient ensuite leur formation pendant 1 ou 2 ans, mais en étant payés. L'idée est de redynamiser les candidatures au métier d'enseignant, pour lequel le nombre de candidats baisse depuis 2012. Grâce à la conjoncture et à la croissance, meilleure que prévu, la sécurité sociale sera quasiment à l'équilibre cette année, avec avec un déficit au plus bas depuis 2001. De quoi se réjouir et s'offrir de meilleures marges de manœuvre, selon Claude Le Pen. Il est économiste de la santé, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Et il veut rappeler tout de même que les Français ont payé cher cet équilibre.
On l'a payé cher parce que cette embellie, elle est récente. Elle date, disons, 2017-2018. Le déficit abyssal, il remonte à 2009-2010. Donc il a fallu, pendant des années, des plans d'économie de plus en plus sévères. Et le dernier, le plus sévère de la série, plus de 4 milliards, payé par le secteur pharmaceutique, payé par les hôpitaux, dont on baisse tous les ans les tarifs de 2-3%, payé par les professionnels de santé, payé par les Français aussi, d'un certain point de vue, qui font la queue aux urgences. Donc c'est quelque chose qui ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas un déficit qui est miraculeusement évanoui, c'est un déficit qui est le fruit d'une part des efforts faits par le système de santé en général et d'autre part de l'amélioration de la conjoncture.
Des efforts, le personnel hospitalier en fait tous les jours, malgré, dit-il, le manque de moyens criants des établissements. Un rapport du Haut Conseil de l'assurance maladie préconise pourtant d'investir dans des hôpitaux communautaires un peu partout en France pour soigner le tout venant et les personnes âgées notamment. Ils ont discuté pendant 3 mois autour de la bioéthique, fin des états généraux. Le comité consultatif doit maintenant écrire son rapport. En marge de toutes ces discussions, un comité de citoyens s'est aussi réuni pendant 4 week-ends. 22 personnes de tous horizons. Elles ont débattu sans pour autant se convaincre mutuellement sur de vastes sujets, Tara Schlegel.
En particulier, la question de la fin de vie dont ce comité citoyen a décidé de se saisir. Les 22 participants ont été d'accord pour noter d'abord qu'ils étaient insuffisamment informés de la loi Leonetti-Claeys existante. Ils ont mesuré qu'il fallait encore faire un gros travail de communication. Et puis, le groupe s'est divisé. 2/3 des participants se sont montrés favorables à de réels changements, comme le résume Jean-Christophe, qui a pris la parole au nom des 22.
Pour nous, c'est une évidence qu'il va falloir la faire évoluer cette loi. Donc, on sent bien qu'on se heurte aussi à des sensibilités de chacun, à des parcours de vie de chacun. C'est des sujets tabous, la mort. Donc on ne veut pas en entendre parler, mais par contre, effectivement, d'être renseigné bien en amont, même si ça ne nous concerne pas, nous, nos familles, c'est bien de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on est autorisé à faire. Donc, pour certaines personnes, on aimerait qu'on puisse élargir un peu, c'est-à-dire donner le choix au patient, à l'être humain. C'est la dernière liberté, hein, la mort, donc de choisir sa fin de vie, quoi. Disons les choses comme elles sont.
1/3 des participants a jugé à l'inverse que certes, la loi Leonetti-Claeys était encore trop méconnue, mais surtout qu'elle était insuffisamment appliquée et que l'urgence est d'offrir aux personnes en fin de vie un réel accès aux soins palliatifs en France. Pourquoi pas à domicile, ajoute même le comité citoyen. 2/3, 1/3, on lit bien ici que les débats et plus largement les états généraux n'ont pas permis d'atteindre un consensus et que la loi bioéthique devra probablement trancher.
Il est poursuivi pour fabrication d'explosifs qui ont servi lors des attentats du 13 novembre 2015. Un Belge de 31 ans est mis en examen. Il aurait eu la clé d'une planque à Bruxelles où ont été fabriquées les ceintures d'explosifs utilisées lors des attaques. Mis en examen donc pour complicité. Confiance accordée en Italie. Le nouveau chef du gouvernement, Giuseppe Conte, a le soutien du Sénat. Il doit avoir celui de la Chambre des députés aujourd'hui. Giuseppe Conte qui dit assumer la politique populiste de son gouvernement. Gouvernement souhaitant notamment lutter contre ce qu'il appelle le business de l'immigration, souhaitant aussi se rapprocher de la Russie. Nous en venons à cette polémique après la diffusion d'une vidéo critique envers le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Tournée à Bruxelles par une journaliste algérienne, cette vidéo provoque des tensions diplomatiques entre Alger et l'Union européenne, Leïla Berhato.
La vidéo a été vue plus de 5 millions de fois. Une journaliste algérienne qui se trouve au Parlement européen demande au président Bouteflika de quitter le pouvoir. L'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, puis le ministère des Affaires étrangères, puis le président du Parlement dénoncent tous, dans des communiqués, une atteinte au symbole de l'État algérien et demandent à l'Union européenne de se démarquer publiquement de la vidéo. Le journal El Watan parle d'un autoritarisme d'un autre âge, soulignant que les propos de la journaliste ne sont pas nouveaux et que des acteurs politiques ont eux aussi demandé le départ du président. Le journal El Khabar, lui, s'inquiète de l'ampleur que semble prendre le conflit après la réponse de l'ambassadeur de l'Union européenne. Pour ce dernier, Bruxelles n'a pas justifié une vidéo faite par une journaliste au nom de la liberté d'expression. Mais cette réaction n'a pas suffi à Alger, qui réclame désormais des explications via le canal diplomatique.
Leïla Berato, correspondante de RFI à Alger pour France Culture. Comme un air de déjà-vu en France, un temps agité et orageux ce mercredi encore. Des averses d'abord sur la moitié ouest du pays, puis des orages à la mi-journée, excepté près de la Méditerranée, sur l'Aquitaine et en Midi-Pyrénées. Et ce matin sont donc toujours sous vigilance pour inondations la Charente maritime, la Vienne, les Deux-Sèvres et l'Eure. Pour les températures, comptez ce matin 13 degrés à Cherbourg, 18 à Bordeaux et Auxerre, 20 degrés en Ile-de-France à Dunkerque, 21 à Lyon, Nice sur la Corse. La maximale, elle est toujours à Strasbourg ce matin avec 24 degrés.